12. Ce dimanche soir, Maurice se rend dans un deuxième cybercafé et se livre à sa petite enquête perso. Quand il a trouvé ce qu'il cherche, il repêche le bout de papier où il a noté le numéro de portable de Peter Saubers et y inscrit l'adresse de Andrew Hallyday. Coleridge Street est dans le West Side. Dans les années 70, c'était une enclave essentiellement classe moyenne blanche, où toutes les maisons essayaient d'avoir l'air un peu plus coûteuses qu'elles ne l'étaient en réalité, et au final, tout avait l'air à peu près pareil. Un petit détour par quelques sites d'agences immobilières locales apprend à Maurice que les choses n'ont guère changé de ce côté-là de la ville, même si un centre commercial haut de gamme, Valley Plaza, y a été construit. La voiture de Andy est peut-être restée garée devant sa maison là-bas, à moins qu'elle ne soit sur le parking derrière sa boutique. Maurice n'a pas pensé à regarder. « Bon Dieu, on ne peut pas tout vérifier, pense-t-il. » Mais ça lui semble peu probable. Qui s'embêterait à prendre sa voiture matin et soir pour faire 5 bornes avec la circulation des heures de pointe, alors que pour 10 $, tu peux te payer une carte de bus mensuelle et pour 50, une carte valable 6 mois. Maurice a les clés de la maison de son vieux pote, mais il ne prendra pas le risque de s'en servir. La maison a largement plus de chances d'être sous alarme que le centre aéré de Birch Street. Il a aussi les clés de la voiture de Andy, et une caisse pourrait bien lui être utile. Il retourne à pied au manoir aux barges, convaincu que McFarland l'y attend, et que non content de faire pisser Maurice dans son petit gobelet en plastique, il a l'intention cette fois de fouiller sa chambre. Et là, il trouvera le sac de jardinage contenant l'ordinateur volé, la chemise et les chaussures couvertes de sang. Sans parler de l'enveloppe de billets qu'il a prise dans le tiroir de bureau de son vieux pote. « Je le tuerai », songe Maurice, qui est maintenant, du moins dans son propre esprit, Maurice le loup. Mais il ne pourrait pas se servir du flingue. Des tas de gens au manoir aux barges savent reconnaître un coup de feu. Même le petit peu pampoli d'un mini-flingue de pédale comme le P-238 de son vieux pote. Et il a laissé la hachette dans le bureau d'Andy. La hachette ferait peut-être pas l'affaire de toute manière, même s'il l'avait. McFarland est aussi balèze que Andy, mais pas gras ramollo comme Andy. McFarland est costaud. C'est OK, se rassure Maurice. Cette connerie, c'est que des conneries. Parce qu'un vieux loup est un loup sournois. Et que c'est comme ça qu'il faut que j'agisse maintenant. Sournoisement. McFarland n'attend pas sous le porche. Mais Maurice n'a pas le temps de pousser un soupir de soulagement qu'il s'est déjà convaincu que son agent de probation l'attend en haut de l'escalier. Pas dans le vestibule, car il est probablement nanti d'un pass qui lui donne accès à toutes les chambres de ce taudis minable empestant la pisse. « Viens me chercher, » pense-t-il. « Et c'est juste pour voir, espèce d'enculé. » Mais sa porte est fermée à clé. La chambre est déserte et elle n'a pas l'air d'avoir été fouillée. Même si McFarland a dû faire ça proprement, sournoisement. Puis, Maurice se traite d'idiot. Si McFarland avait fouillé sa chambre, il l'aurait attendu en compagnie de 2 flics. 2 flics avec des menottes. Quand bien même, il ouvre grand la porte du placard pour vérifier que les sacs de jardinage sont toujours là. Ils y sont. Il sort l'argent de l'enveloppe et le compte. $640. Pas des masses, même pas le 1/10 de ce qu'il y avait dans le coffre de Rothstein, mais c'est toujours ça de prix. Il le remet dans l'enveloppe, referme le sac, puis s'assied sur son lit et tend ses mains devant lui. Elle tremble. « Faut que je sorte ça d'ici, » pense-t-il, « et faut que je le fasse demain matin. Mais pour l'emmener où ?» Maurice reste allongé sur son lit, les yeux au plafond, à réfléchir. Il finit par s'endormir.